Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Confédération des travailleurs catholiques du Canada lors de sa fondation, elle est devenue plus tard la Confédération des syndicats nationaux. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, les origines de la CSN, 100 ans de lutte syndicale.
Dans la charte de la CTCC, il y avait la présence obligatoire de l'aumônier à toutes les réunions. Le temps était venu de prendre une centrale qui était officiellement catholique et qui avait des aumôniers dans ses statuts, puis de dire, bon, ben là, on va faire ça tout seul. C'est-à-dire, on est des laïcs, et le syndicalisme, c'est un mouvement, c'est un acte de laïcs, entre laïcs, et qui négocie des conditions de travail, et puis on va laisser faire ça.
Propos de Guy Lamarche, ancien journaliste dans la série documentaire « La Révolution tranquille » diffusée en 2009 à notre radio. Des origines catholiques de la CTCC aux luttes ouvrières de la CSN, la centrale syndicale fondée il y a 100 ans à Hull a joué un rôle déterminant dans la Révolution tranquille au Québec. Son histoire est marquée par des conflits de travail retentissants, parfois violents, mais aussi par des avancées sociales importantes. Du Front commun de 1972 à l'équité salariale, en passant par la grève de l'amiante et les allumetières, la CSN a été de tous les combats. Catholique, marxiste, corporatiste, la centrale a évolué au fil du temps. Son influence n'est plus la même aujourd'hui, à l'image des grandes organisations syndicales.
Mes chers auditeurs, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada célébrera ses noces d'argent à Québec les 15, 16, 17, 18 et 19 septembre prochains. Beaucoup ont entendu parler de ce mouvement syndical catholique. Peu, cependant, connaissent bien cet organisme ouvrier. Encore moins savent sa réalisation dans le domaine économico-social. Rappelons d'abord que les unions ouvrières d'outre frontières, implantées au Canada au siècle dernier, n'ont jamais répondu aux aspirations des catholiques du Canada et de la province de Québec en particulier. Leur neutralité religieuse, leur caractère étranger, leur éloignement de l'enseignement de l'Église catholique en matière économique et sociale, et surtout parce qu'elle ne répondait pas à la mentalité de la masse ouvrière catholique de chez nous, leur incapacité à se faire agréer par toute la masse de nos ouvriers, voilà à bon droit les raisons ultimes qui ont, par contre-coup, engendré le syndicalisme catholique et national au Canada.
Alfred Charpentier, président général de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, noce d'argent pour la CTCC, c'était en 1946. 2021, c'est plutôt le 100e anniversaire de l'organisation syndicale qu'on souligne. Et mon invité pour le faire, une des figures marquantes de la CSN, Gérald Larose, professeur associé à l'École de travail social de l'UQAM, syndicaliste, ex-président de la CSN de 1983 à 1999. Bonjour, merci beaucoup d'être là.
Bonjour.
Oh, pas facile, évidemment, de résumer en 100 ans d'histoire et on ne pourra pas tout couvrir en 23 minutes. Mais si vous aviez d'abord à résumer ce qu'a été la CSN, son évolution depuis sa fondation, vous diriez quoi?
Moi, je dirais, bon, elle est née dans la rupture hein, par rapport au syndicalisme américain qui contredisait, disons, à la fois la langue et la culture catholique de l'époque. C'est un mouvement qui a évolué en multipliant, si je peux dire, les ruptures. Il y a eu la rupture par rapport au duplessisme, par rapport au fédéralisme, par rapport au cléricalisme, par rapport à l'étatisme technocratique aussi dans les années 70 et 80. Et puis, plus récemment, par rapport au modèle dominant de société, là, qui est une société productiviste et consumériste. C'est une centrale qui valorise beaucoup l'économie sociale. Donc, c'est une, on peut dire, née dans un bénitier. Elle s'est finalement moulée aux aspirations profondes du mouvement ouvrier pour finalement mener des luttes sociales et politiques qui ont effectivement marqué le Québec au cours des années.
Ah oui, tout à fait. Mais parlons des origines. Hein. Vous l'avez mentionné, la CSN qui était jadis un syndicat catholique, la CTCC. Comment c'est né, ça?
Bon, il faut d'abord se rappeler qu'au début du 20e, on est dans l'industrialisation, c'est la misère ouvrière. Il y a un bouillonnement dans les sous-sols d'églises, les caisses populaires se mettent en route, les coopératives aussi. Il y a des groupes d'étudiants, de femmes, d'agriculteurs. Puis, il y a des syndicats autonomes qui sont dissidents des syndicats américains. Et la CSN est née du regroupement de ces syndicats autonomes. Et c'est moulé dans la doctrine sociale de l'Église. Il faut dire que les syndicats américains étaient d'inspiration socialiste. Curieusement et paradoxalement, ils vont évoluer vers l'affairisme et le corporatisme. Mais la doctrine sociale de l'Église, tout en prônant le dialogue, n'empêchait pas les grèves. Là. Puis plusieurs syndicats avaient déjà des grèves dans le corps pour, au moment du congrès de fondation. En fait, c'est la première manifestation, la création de la CTCC de l'époque, c'est la première manifestation de l'émancipation ouvrière au Québec, dans la langue française et dans la culture catholique. Et ça, ça a toujours été, disons, une marque, c'est que c'est une centrale qui était collée aux intérêts des francophones du Québec, mais quoique il y a toujours eu aussi des syndicats francophones à l'extérieur du Québec, mais je dirais à la hauteur de 2%, là, c'était quand même... un peu marginal.
Oui, tout à fait. Catholique, à l'image, bien sûr, de la société canadienne-française de l'époque, hein, comment se traduisait cette influence de l'Église au sein du syndicat au début?
Bien, il y avait la présence d'aumôniers, mais disons, les aumôniers, ils étaient là, mais c'était pas eux autres qui décidaient. Quand la CSN, dans les années 40, a décidé de passer à l'offensive sur un certain nombre de dossiers, les aumôniers ils suivaient. Et puis même, disons, les aumôniers étaient eux-mêmes des gens de la classe ouvrière. C'était pas la hiérarchie. Et donc, ils épousaient littéralement la condition de ces ouvriers-là. Et on se rappellera qu'à la grève de l'amiante, y compris la hiérarchie de Montréal, s'est collée aux intérêts des travailleurs de l'amiante pour organiser la lutte contre Duplessis.
Oui. Conflit marquant, et là on y vient, hein, celui de peut-être probablement l'un des plus mythiques de l'histoire du syndicalisme au Québec. 1949, grève d'asbestos, 5000 travailleurs de l'amiante. Conflit très, très dur qui sera sévèrement réprimé. C'est ce que racontait Jean Marchand, secrétaire général de la CTCC en 1949. On va l'écouter ici à notre télé, l'émission Le 60 en 1974.
Vous vous souvenez qu'en 1949, c'est M. Duplessis qui était premier ministre du Québec. Or, M. Duplessis, comme on le sait, est un nationaliste et canadien-français et qui défendait toujours les bonnes causes contre le gouvernement fédéral. OK, c'est l'image globale que nous avions du gouvernement Duplessis, gouvernement autonomiste, libre, etc. Et nous avions à Asbestos, comme à Thetford d'ailleurs, des syndicats catholiques canadiens-français, c'est-à-dire des syndicats qui étaient normalement dans la même ligne idéologique, si vous voulez, que l'Union nationale, même si au point de vue, au point de vue politique, si vous voulez, on ne pensait pas de la même façon. Mais c'était des institutions canadiennes-françaises dans les deux cas, et orientées du moins officiellement dans la même direction. D'un autre côté, vous aviez cette grosse compagnie américaine qui s'appelait la Johns Manville, et qui exploitait l'amiante à asbestos, et les autres compagnies anglaises, canadiennes-anglaises, à Thetford, comme l'Asbest Corporation, la Johnson. Alors, normalement, on s'attendait que dans un conflit comme ça, c'est-à-dire moi étant produit du milieu canadien-français et en fait les sciences sociales, etc., j'ai dit sûrement qu'on va avoir l'appui du gouvernement. Eh? Bah, devant une situation comme celle-là, ben, ça a été le contraire. T'sais. Immédiatement, Duplessis a appuyé la Johns Manville contre nous.
Et on connaît la suite, hein, une grève qui a été sévèrement réprimée. C'est une défaite pour la CSN, mais en même temps, le mouvement syndical en sort grandi. Pourquoi?
Bon, puis c'est pas la seule. Hein. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques de la CSN, c'était d'engager des batailles sans être sûr de les gagner. Et celle-là, ça a été une des plus spectaculaires. Effectivement, les ouvriers n'ont pas gagné, mais ça a été le moment d'incubation de la Révolution tranquille. Ça a été le moment où les intellectuels, et puis il faut rappeler que autour de ce conflit-là, il y avait Pierre Elliott Trudeau, il y avait Jean Drapeau, Michel Chartrand, Pierre Vaudebonkœur, Jean-Paul Geoffroy, etc., Gérard Pelletier. Alors, ça a été un moment de cristallisation de l'opposition à Duplessis. Et effectivement, puis c'est Gérard Pelletier qui le dit dans ses mémoires, ça a été un véritable moment de réflexion qu'allait donner la Révolution tranquille. La bataille a été perdue, mais ça a donné au Québec la modernité, ça a donné au Québec un véritable État social qui assumait ses responsabilités. Ça a été un changement de culture majeur qui s'est fait en l'espace de quelques années, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le sage est arrivé au pouvoir, il y a eu la mise en place d'un ensemble de dispositifs qui avaient été réfléchis à la CSN quelques années avant.
Oui, un catalyseur, hein? Et ça, oui, vous l'avez bien dit, ça va nous mener tranquillement vers la Révolution tranquille. En même temps, c'est aussi à la même époque, j'ai l'impression que le syndicat s'éloigne tranquillement de l'Église. D'ailleurs, le syndicat va changer de nom en 1960.
Oui, c'est en 1960, au 39e congrès. Puis je dirais que ça se préparait depuis un certain temps. Elle s'est séparée officiellement, disons, elle a changé de nom. C'est devenu la Confédération des syndicats nationaux. Et puis, disons, les syndicats fonctionnaient d'une manière autonome depuis plusieurs années. Et sous l'élan, je dirais, de la Révolution tranquille, c'est l'organisation, c'est la CSN en particulier, qui a réussi à négocier le nouveau Code du travail avec Jean Lesage, lui qui avait dit que la reine ne négociait pas avec ses sujets.
Oui,
mais
oui.
Disons que ça a quand même, il y a eu un nouveau code avec la syndicalisation de l'ensemble du secteur public et plus tard le Front commun. On peut dire que la CSN a été peut-être la cheville ouvrière du relèvement des conditions de travail et salarial du secteur public à l'époque.
Mmh, oui, les travailleurs de l'État. Bon, vous dites, on s'éloigne de l'Église, par même temps, il y a un autre, d'autres dogmes hein, qui s'installent. Certains diront une autre forme de religion, et c'est pas que dans les syndicats, c'est très en vogue dans les milieux universitaires dans les années 60-70, hein, l'idéologie marxiste-léniniste. Est-ce que c'était plus présent qu'ailleurs à la CSN? Souvent, on dit ça.
Oui, je pense que c'était plus présent. Parce que la CSN a une caractéristique, c'est, disons, d'être un regroupement de syndicats autonomes. Hein? C'est-à-dire que chaque unité vote ses propres statuts, sa cotisation, élit ses officiers, élabore ses revendications, signe sa convention. Donc, c'est une organisation très ouverte. Alors, c'est sûr que toutes les idées circulent, et même si elles sont minoritaires, elles sont habituellement assez vocales.
Oui.
Et donc, ces idées-là, oui, ont fait partie des débats sans qu'ils prennent la majorité. Mais ça fait un peu de turbulence. Et puis, mais moi, j'ai toujours été plutôt ouvert à cette turbulence parce que ça force les organisations à anticiper sur ce qui doit venir dans la société. Et c'est ce qui a fait que la CSN, contrairement peut-être à d'autres mouvements qui ont été davantage affairistes, davantage corporatistes, à la CSN, c'est un syndicalisme social. Je dirais même social-politique, sans que ce soit partisan. C'est ce qui a fait que ça a été toujours une organisation dont le patronat s'est particulièrement méfié, et aussi l'État. Par ailleurs, ça a quand même été un ferment dans la société pour le développement d'un certain nombre de politiques publiques que le mouvement a cogité avant qu'elles ne deviennent des politiques publiques.
Oui, à force de militer, hein, mais effectivement, un syndicat peut-être plus idéologique. En tout cas, en 1972, on met de côté les étiquettes et les différents. Hein, c'est le Front commun intersyndical, oui. Le CSN, FTQ, CEQ, tous se réunis pour le renouvellement des conventions collectives des employés de l'État. Conflit très important, grève générale, loi spéciale, emprisonnement des trois chefs syndicaux. Alors, rappel des faits ici, en quelques archives, avec d'une part Bernard de Rome, Louis Laberge de la FTQ et puis des syndiqués en colère.
Le 7 mars, toujours au Forum, c'est l'Assemblée du Front commun syndical qui attire 12 000 participants. Les chefs syndicaux recommandent aux représentants des 210 000 syndiqués du secteur public de voter non au référendum sur les offres de Québec. L'Assemblée est dominée par les enseignants et l'on fait appel à l'union contre le gouvernement.
Ce n'est pas un affrontement avec le gouvernement du Québec. Ce que nous voulons, c'est une convention collective. Pas une convention collective imposée. Une convention collective véritablement négociée.
Nous avons décidé de recommander aux membres du Front commun de retourner au travail, tel que prévu dans la loi. Ceci étant dit, ce n'est pas la fin de cette lutte.
Personnellement, moi, je ne retourne pas.
Malgré l'amende de 250 $ par jour.
Je veux rien savoir d'eux autres.
Oh, fou, je gagne même pas 100 $ par semaine, Claire. Vous me mettrez en prison, c'est tout.
Si tout le monde se tiendra en main, le gouvernement sera renversé. Parce que franchement, Bourassa, là, lui qui n'aille pas d'autres élections parce qu'il va débarquer de là, certain.
Les syndiqués en colère en 1972. Diriez-vous que ce Front commun de 72, ça représente un rapport de force inégalé dans l'histoire?
Oui. Alors, il faut rappeler que la CSN était immensément majoritaire dans le secteur public.
Oui.
Et le trait de génie de Marcel Pépin, ça a été d'inviter les autres organisations à faire partie du Front commun, de telle sorte que ça couvrait toute la gamme des salariés du secteur public et parapublic. Et le seul fait d'une première coalition organique, c'est-à-dire organisée, ça a donné un rapport de force extraordinaire. Ça a été, disons, une lutte difficile. Il y a eu emprisonnement des trois chefs. Momentanément, les gens pensaient d'avoir perdu, mais quelques mois après, ça a donné la grande structuration salariale du secteur public qui prévaut encore. C'est-à-dire qu'on a véritablement développé une politique salariale dans l'État du Québec à partir de ce front commun. Ça a donné aussi le premier 100 $ minimum de salaire pour tout le monde. Alors oui, ça a été difficile. Oui, il y a eu l'emprisonnement des chefs, mais il y a eu des gains substantiels.
Oui, tout à fait. En ce sens, ça a été une victoire pour bon nombre de syndiqués. Mais en même temps, par la suite, pourquoi des milliers de personnes ont quitté la CSN? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, c'est un peu l'histoire de la CSN. Hein. La CSN est un milieu très ouvert pour les idées. Et donc, puis la CSN n'hésite pas à faire les débats. Et ceux qui perdent, parfois, décident de quitter. Et en 72, je dirais, c'est parce que dans la direction de la CSN, il y avait des partisans du Parti libéral du Québec qui, dans cet affrontement, se sont sentis bousculés et qui ont décidé de créer une autre organisation qui s'appelle la CSD et qui a fait bien l'affaire du gouvernement à l'époque parce que diviser, c'est toujours plus facile ensuite pour imposer ses volontés. L'Assemblée nationale s'est réunie en plein été pour accréditer cette nouvelle organisation. Alors, il y a eu effectivement création de la CSD, mais ça n'a pas empêché le mouvement de poursuivre sa poussée et d'obtenir les principales revendications.
Oui. La CSN, non, c'est aussi des prises de position politique, vous l'avez dit un petit peu plus tôt, notamment sur la souveraineté. Et là, on connaît la suite. Échec référendaire de 1980, rupture aussi avec le Parti québécois en 81-82, avec les décrets du gouvernement Lévesque. Alors, dans quel état se trouve la CSN quand vous accédez à la présidence en 1983?
Bon, c'est une période très tendue. D'abord, il faut rappeler qu'il y a eu l'échec référendaire en 80, mais c'est la crise économique
L'inflation, le chômage.
Et
oui.
Au Québec en particulier, le taux de chômage qui s'est multiplié par deux puis par trois dans certaines régions, les taux d'intérêt qui sont à 21-22%, le secteur manufacturier est cassé en deux. Donc, c'est une grande turbulence. Et à l'intérieur de la CSN, à ce moment-là, il y a une tension importante entre le secteur privé et le secteur public. Le secteur public est en négociation. Il veut améliorer ses conditions, mais l'environnement économique est plutôt réfractaire et le secteur privé écope beaucoup dans la crise. Donc, il y a une tension importante. Et le président Norbert Rodrigue quitte la présidence. Il y a élection d'un nouveau président qui s'appelle Donatien Corriveau, mais qui ne présidera pas parce qu'il sera malade tout de suite. Et donc, j'étais le premier vice-président. J'ai assumé de facto la présidence qui a été entérinée au mois de septembre 1983. Donc, c'est un moment de tension importante et ça nous a conduit à un congrès spécial en mars 1985 où on a révisé, si je peux dire, un certain nombre d'approches pour tenir compte du nouveau contexte dans lequel nous étions. Il faut dire que c'est le début de la mondialisation. Il y a une réforme fiscale qui s'inspire du thatchérisme et du réganisme. Mm-hmm. Et donc, on a révisé un ensemble d'approches pour faire en sorte que, comme organisation, on se positionne pour faire partie des débats publics et faire partie des lieux où s'élaborent les politiques publiques. Donc, ça a été une approche qui nous a amené à faire les débats sur les législations, sur les politiques qui étaient proposées. Alors, c'était, ça nous a donné la première politique régionale avec le ministre Sicotte, la création de la Société québécoise de la main-d'œuvre avec le ministre Bourbeau, les grappes industrielles avec Gérald Tremblay et surtout la réforme de la santé avec Marc-Yvan Côté. Bon, oui. Ces gens-là sont peut-être moins, fréquentables, mais c'est des gens qui ont été forcés de travailler avec la société civile pour faire en sorte qu'on ait des politiques publiques qui puissent être ajustées aux nouvelles réalités. Bon, par après, M. Charest et Couillard vont passer puis ils vont tout bazarder ça, mais à l'époque, c'était une façon de faire moderne pour que les intérêts des salariés et de la population en général puissent être pris en compte. Oui. Je vous dirais que ça nous a conduit au sommet avec Lucien Bouchard au milieu des années 90, c'est-à-dire après le référendum, en 1996, où il y a eu le débat sur le déficit zéro, mais en contrepartie, nous avons obtenu la création des centres de la petite enfance, l'équité salariale, la création du chantier de l'économie sociale, la réduction de la semaine de travail de 45 à 40 heures. On a obtenu aussi une révision de la fiscalité avec la commission d'amour. Donc, il y a eu une négociation sociale, ça a été l'approche de la CSN.
Oui, à ce moment-là. Et c'est vrai que vous étiez de tous les grands sommets et les chefs syndicaux, et pas qu'à la CSN, hein, j'ai l'impression, ont eu un taux de notoriété jamais acquis depuis ce temps-là. Gérald Larose, faut-il le rappeler, ancien président de la CSN de 1983 à 1999, professeur associé à l'École de travail social de l'UQAM. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
Merci, ça a été un plaisir.
Ici Maxime Coutier, merci à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. À une prochaine. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.